C'est devant toi qui es assis sur le trône et qui règne au siècle des siècles que nous nous sommes tenus pour t'apporter notre louange et notre adoration. Quel bonheur d'appartenir à un Dieu comme toi dont le règne est éternel. Seigneur, toi qui s'appelles fidèle et véritable, toi qui agis avec justice, Seigneur, avec puissance et avec gloire, nous bénissons ton nom pour tout, Seigneur, et nous voulons en cet instant te demander de nous parler. Nous voulons en cet instant, Seigneur, te demander de déposer dans nos cœurs une pensée qui vient tout droit de ta part. Ce matin, nous voulons, Dieu, que par ton esprit, tu puisses nous visiter puissamment au travers de ta parole. Et que cette parole, Seigneur, qui est une semence incorruptible, puisse trouver des cœurs bien disposés. Seigneur, cœur dans lequel elle va germer et produire du fruit pour ta gloire. Nous voulons être des hommes et des femmes, Seigneur, qui sont de jour en jour transformés, transfigurés par ton esprit. Et ce matin, Seigneur, tu nous donnes l'occasion de nous ouvrir à toi, afin, ô Dieu, de te donner l'occasion de poursuivre l'œuvre de perfectionnement que tu as commencé dans chacun de nous. Cette œuvre de restauration. Ô, nous bénissons ton nom pour tout, Seigneur. Merci pour ta parole. Bénis ton serviteur, assiste-le, revêt-le de ta puissance. Seigneur, qu'il ne brade pas ta parole. Seigneur, qu'il ne puisse pas la brocanter, mais qu'il la proclame dans sa pureté, dans sa limpidité, Seigneur, dans sa clarté et dans sa puissance. Et que cette parole, ô Dieu, puisse secouer nos fausses convictions et s'imposer à nous comme étant le seul principe valable, Seigneur, ô Dieu, de conduire nos vies. Elle reste et demeure la seule norme. Notre Père, notre Dieu, en matière de conduite, en matière de comportement, Seigneur, mais aussi en matière, ô Dieu, spirituelle, théologique ou autre, bénis ta parole et dépose-la dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir. Gloire au Seigneur, alléluia. Quel bonheur de chanter le nom qui est au-dessus de tout nom. Quelle joie de laisser nos cœurs vibrer pour ce nom-là. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Il a reçu le nom le plus majestueux, le plus glorieux, le plus extraordinaire, le plus puissant qui soit. Et lorsque nous proclamons son nom, croyez-moi, l'enfer tremble. Lorsque nous proclamons son nom, les entités qui ne font pas partie de son royaume tremblent. Alléluia. Aujourd'hui, le monde vit comme il vit. Aujourd'hui, le nom du Seigneur est méprisé, traîné dans la boue par beaucoup d'hommes et de femmes. Aujourd'hui, c'est le nom le plus craint, le plus combattu un peu partout sur cette terre. Mais croyez-moi, un jour il reviendra. Pour le moment, il agit en agneau. Il est venu donner sa vie comme agneau pascal, qui ôte le péché du monde. Mais il reviendra comme le lion de la tribu de Juda. En ce jour-là, le monde n'aura pas de choix que de plier ce genou devant lui. En ce jour-là, toute langue se déliera et confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, que Dieu nous donne de l'aimer. Que Dieu nous donne de serrer ce nom dans notre cœur. C'est le nom de la victoire. C'est le nom de la gloire. C'est le nom qui demeure éternellement. Les noms des grands de ce monde passeront. Voyez-vous? Mais lui, avec son nom, demeure éternellement. Gloire au Seigneur. Je voudrais parler aujourd'hui, ou du moins en introduction, de la nécessité de vivre le royaume de Dieu, d'expérimenter le règne de Dieu. Nous sommes au début de l'année, je crois qu'il est important que nous sachions que nous faisons partie du royaume le plus extraordinaire qui soit. Nous faisons partie, mes amis, du royaume qui est le seul à demeurer et à perdurer, alors que tous les autres royaumes, alors que tout autre système politique, système religieux passera, son royaume à lui demeure éternellement. Alléluia. Alors il est important que nous puissions entrer dans cette nouvelle année avec cette pensée du royaume de Dieu dans lequel nous sommes entrés, mais royaume dans lequel nous sommes appelés à grandir, à nous épanouir, à bourgeonner, à fleurir, à porter du fruit pour sa gloire. Alléluia. Comment vivre ce royaume? Comment expérimenter le règne du Dieu vivant alors que nous sommes membres, alors que nous sommes citoyens de ce royaume? Nous allons lire dans la deuxième épître de Paul. Nous sommes toujours dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Le dimanche dernier, eh bien, c'est de cette épître que nous avons tiré notre thème, le triomphe du Christ. Et aujourd'hui, nous allons lire au chapitre 9, vivre le royaume de Dieu. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, nous parlerons simplement d'un principe important, fondamental, du royaume. En fait, nous dit la parole, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Vivre le royaume de Dieu. Expérimenter le règne de celui qui est venu sur cette terre et qui s'est révélé et se révèle encore comme étant le roi de rois. Si le roi, c'est qu'il a un royaume. Et s'il a un royaume, c'est que dans ce royaume, il règne. Comment vivre alors, expérimenter le règne de Dieu? Je crois qu'il est important que nous sachions quelle est la nature du royaume dans lequel nous sommes entrés. Quels sont les principes, les forces en jeu? Quels sont les principes qui régissent, qui gouvernent ce royaume? Car il est important que nous puissions les connaître si nous voulons, mes amis, aller de gloire en gloire, prospérer à tous égards, alors que nous faisons partie de ce royaume. L'évangile de Jésus-Christ est centré sur cette vérité, mes amis, qu'est le royaume de Dieu. Le premier message que le Christ a proclamé, lorsqu'il a commencé son ministère terrestre, a été celui-ci, « Repentez-vous, car le règne de Dieu s'est approché de vous. » Alléluia. « Repentez-vous, car le règne de Dieu s'est approché de vous. » Il a quitté son trône. Il est venu sur cette terre. Et par sa présence sur cette terre, eh bien, il a apporté, il a amené le royaume de Dieu à l'homme. Et désormais, mes amis, depuis plus de 2000 ans, le royaume de Dieu est à l'œuvre sur cette terre. Et quand nous parlons du triomphe du Christ, nous parlons de son règne, alléluia. Nous parlons de cette vérité, de cette réalité, que le royaume de Dieu. Il a dit, il a proclamé, et tout au long de son ministère, eh bien, il a montré aux hommes comment entrer dans ce royaume, comment expérimenter la vie du royaume, comment expérimenter le règne de Dieu alors qu'on fait partie de son royaume. C'est donc cette notion de royaume ou du royaume de Dieu est une notion importante. Tous ceux qui sont en Christ font partie de son royaume. Alléluia. Non seulement il a enseigné, il a proclamé. D'ailleurs, l'évangéliste Matthieu nous le dit au chapitre 4, où il nous dit, verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues. Il prêchait la bonne nouvelle du règne et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il délivrait. On lui amenait tous ceux qui souffraient des maladies et de douleurs diverses, des démoniaques, des lunatiques, de gens paralysés, de gens sous l'emprise, de toutes sortes de forces du mal, et il leur accordait la guérison, la délivrance et la libération. Alléluia. Gloire au Seigneur. Non seulement il enseignait, non seulement il proclamait la parole de Dieu, mais en même temps, mes amis, il accompagnait son enseignement sur le royaume de Dieu par une démonstration de puissance et d'esprit. En d'autres mots, il manifestait ce règne-là. Et à chaque fois que le règne de Dieu se manifestait, eh bien, les solutions aux problèmes des hommes étaient trouvées. Ceux qui étaient malades, quelle que fût leur maladie, eh bien, expérimentaient la guérison. Les paralytiques marchaient, ceux qui étaient sous l'emprise démoniaque, ceux qui étaient manipulés par toutes sortes de forces du mal, expérimentaient la délivrance. Mes amis, le règne de Dieu est une réalité. Et l'Église de Jésus se doit de proclamer au monde que par Jésus, au travers de Jésus, eh bien, le royaume s'est approché de l'humanité. Et désormais, tout homme, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa culture, tout homme, quel que soit son état moral, tout homme, quelle que soit sa condition intellectuelle, mes amis, peut faire partie de son royaume, peut entrer dans le royaume de Dieu et expérimenter ses richesses incommensurables, ses richesses intarissables. Mais ce royaume n'a rien à voir avec la religion quelle qu'elle soit, même pas la religion chrétienne. Le royaume s'est approché de vous, a dit le Seigneur. C'est par lui, au travers de lui, que tout homme peut entrer dans le royaume. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi il a dit, je suis la porte. Nul ne peut venir au Père que par moi, a dit le Seigneur. Personne ne peut atterrir dans ce royaume par erreur ou de manière accidentelle, pas du tout. Tous ceux qui en font partie ont eu à choisir de manière rationnelle, ont eu à faire un choix d'accepter Jésus et de lui confier leur vie. Gloire à Dieu. Car l'évangile ne s'impose pas par la force. Voyez-vous, c'est la religion qui essaie d'utiliser toutes sortes de moyens pour maintenir le genre dans son carcan, pour maintenir le genre dans son système. Mais Jésus ne force personne. Alléluia. Jésus respecte l'homme, car celui qui l'a créé à son image, celui qui l'a doté de ce libre arbitre dont il jouit. L'homme a la liberté de choisir, voyez-vous, et l'homme est fait pour la liberté. L'homme est fait pour la liberté, mais la vraie, celle qui consiste à se soumettre à l'autorité de son Créateur, le royaume de Dieu. Il en a parlé. Il a manifesté la force, la puissance de son royaume. D'où, mes amis, il est important que nous puissions connaître certaines vérités qui sont des principes fondamentaux qui régissent et gouvernent ce royaume. Nous ne pouvons pas avancer, nous ne pouvons pas avoir accès aux richesses incommensurables de ce royaume, nous ne pouvons pas nous approprier de ressources intarissables de ce royaume, si nous ne savons pas comment interagir avec les principes qui régissent et gouvernent donc ce royaume. C'est comme ici, en République démocratique du Congo, il y a des lois. Si vous voulez mener une vie tranquille, ben vous avez intérêt à vous soumettre aux lois de la République, oui ou non. Chaque pays a sa constitution, a sa loi fondamentale. Chaque pays a ses principes. Et vous ne pouvez pas dire, oh, je m'en fous, je vis comme je veux, eh bien, vous auriez des problèmes partout. Eh bien, il en est ainsi dans le royaume de Dieu. Il est régi par des principes. Et Jésus les a enseignés tout au long de son ministère. Nous le trouvons dans les quatre évangiles. Et à la suite de ces quatre évangiles, eh bien, les apôtres en ont parlé. Le but pour lequel Dieu nous a laissé ces livres extraordinaires, eh bien, c'est de nous faire connaître le royaume de Dieu. Alléluia. Comment y entrer? Comment y demeurer? Comment expérimenter les ressources de ce royaume? Comment aller de gloire en gloire dans ce royaume? Mais avant d'examiner le principe, un des principes fondamentaux du royaume de Dieu, que nous trouvons dans le passage que nous venons de lire, j'aimerais souligner l'une ou l'autre vérité en rapport avec ce royaume. Nous devons savoir, frères et sœurs, que le royaume de Dieu, celui que Jésus est venu apporter au monde, eh bien, est un royaume en flagrante opposition au monde dans lequel nous vivons. Ce royaume n'a rien à voir avec tous ces systèmes politico-religieux. Il est vrai que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des tentatives de pouvoir concilier le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et nous savons où cela a conduit à toutes sortes de travers, à toutes sortes de problèmes, de persécutions. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible, lui-même l'a dit. Alléluia. Le royaume de Dieu vient dans le cœur. Vouloir instaurer le royaume de Dieu dans cet espace que la terre, avec une ville comme capitale ou un pays, c'est une folie. C'est une folie. Voyez-vous, Dieu appelle tout homme, où qu'il soit, à entrer dans ce royaume. Et ce royaume transcende les frontières des pays. Ce royaume transcende le temps. Ce royaume transcende l'espace. Alléluia. Et l'homme est appelé à y entrer. Donc, il est important de savoir que ce royaume n'a rien à voir avec le monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Donc, et par conséquent, tout en étant sur cette terre, vous ne faites pas partie de ce monde qui est sous l'emprise des puissances démoniaques. Nous ne le dirons jamais assez. Je sais que dans certains milieux, dans certains coins du monde, parler des forces du mal, parler de Satan, parler des puissances démoniaques, eh bien, ferait de vous un homme un peu déréglé, un homme un peu illuminé, exalté, voyez-vous, alors que c'est une réalité. Et comme nous le savons tous, c'est l'une des grandes victoires du diable. C'est d'avoir amené beaucoup de nos contemporains à croire qu'il n'existe pas, que c'était une invention du Moyen-Âge, que c'est tout ce qu'on trouve comme paroles dans la Bible qui parlent du diable, eh bien, ce sont des paraboles, des métaphores qu'on a utilisées simplement pour montrer à l'homme qu'il y a le mal et puis qu'il y a ceci, ce faux. Jésus a eu affaire à l'action démoniaque, oui ou non? Jésus a eu à délivrer des hommes et des femmes qui étaient sous l'emprise démoniaque. Et aujourd'hui encore, le Seigneur, avec son triomphe, eh bien, est en train de parcourir le monde à la recherche des captifs, à la recherche des prisonniers, à la recherche de ces hommes et de ces femmes qui ne savent plus quoi faire, mes amis, qui sont déçus par la religion, qui n'ont pas trouvé la paix du cœur dans la religion, qui n'ont pas trouvé la vraie joie. Vous ne la trouverez nulle part, cette joie, la vraie, pour laquelle l'homme a été créé, si ce n'est qu'en entrant dans le royaume de Dieu. Donc ce royaume est en opposition flagrante, manifeste avec le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire ce monde naturel. Et en tant que chrétiens, nous le savons et nous devons le savoir, nous vivons dans ce monde tout en n'étant pas du monde. C'est-à-dire nous ne marchons pas, nous ne fonctionnons pas selon les principes de ce monde, selon les standards de ce monde. Tout en étant dans ce monde, nous sommes appelés à faire la différence, puisque notre royaume est un royaume qui n'a rien à voir avec tout ce qu'il y a sur cette terre. Et les principes qui régissent, qui gouvernent ce royaume de Dieu, eh bien, sont des principes qui sont aux antipodes des principes de ce monde. Ce sont des principes qui sont à des années-lumière. Des règles, des principes, des codes que nous trouvons dans notre monde. Entre les deux royaumes, mes amis, il y a un fossé infranchissable, un fossé abyssal. Vous ne pouvez pas passer de ce royaume vers l'autre royaume comme ça par vos propres efforts religieux. Pas du tout. Le royaume est en Christ. Il faut être en Christ pour faire partie de ce royaume. Alléluia. Nous devons prêcher ce message. Nous devons le proclamer. Mes amis, chaque jour qui passe, non seulement nous rapproche de l'éternité, mais nous rapproche également du retour du Seigneur. Et il est donc important que les gens comprennent que le salut, que pour faire partie du royaume de Dieu, eh bien on n'a pas besoin d'adhérer à une religion, même monothéiste. On n'a pas besoin d'observer telle ou telle autre chose, mais on a besoin de recevoir celui qui est venu sur cette terre et qui, dès le départ, a appelé les hommes à la repentance et qui leur a dit, le règne de Dieu, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un message que les gens doivent entendre, car ne pourront être avec lui dans son ciel de gloire que ceux qui appartiennent maintenant à son royaume, ceux qui en font partie. Gloire à Dieu. Si vous n'en faites pas partie et que vous n'avez qu'une religion, mon frère, ma sœur, toi qui es là ce matin dans ce sanctuaire de la borne, ou toi qui nous suis sur B1 ou à la parole éternelle ou sur toute autre chaîne de télévision, eh bien, si tu ne fais pas partie de ce royaume, sache qu'aujourd'hui, alors que l'année vient de commencer et ne sachant pas comment elle va se terminer pour toi, le Seigneur te tend la main afin que tu la saisisses et que tu fasses que tu entres dans son royaume. Gloire au Seigneur. Ce royaume, donc, est régi par des principes qui n'ont rien à voir. Voyez-vous? C'est pourquoi c'est une chose terrible de vouloir recoudre le voile que le Seigneur a déchiré. Voyez? Il y a beaucoup, beaucoup de religions qui enseignent toutes sortes de choses. Même de religions qui se réclament du Christ, mais qui en réalité égare les gens, voyez-vous, mettre les gens sur une fausse piste en leur demandant d'être 100% membre de leur congrégation, de leur communauté, pour être sauvés. Et Jésus a eu à utiliser des mots très durs envers les chefs religieux de son temps. Il les a appelés des sépulcres blanchis. Il les a appelés des aveugles qui conduisaient d'autres aveugles. Et je dirais que, aujourd'hui encore, nous retrouvons le même problème. Où toutes sortes de religieux essayent d'imposer leurs lois. Voyez, combien de gens sont esclaves de leur religion. On trouve encore de religions aujourd'hui dans lequel ce sont les chefs qui dictent la loi, oui, qui choisissent les épouses pour les uns et les autres. Voyez-vous? Ça ne peut pas venir de Dieu, puisque Dieu respecte l'homme et la femme. Dieu ne vous imposera jamais un choix. Il vous dira toujours, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour vivre. Mais si tu choisis la mort, tu es perdu. Voilà comment Dieu agit. Mais dès lors qu'une religion essaye de forcer les gens, eh bien cette religion, quand bien même elle aurait pour profession de foi la croyance en un Dieu unique, eh bien cette religion-là n'aurait rien à voir avec, si je puis appeler ainsi, la religion que Jésus-Christ est venu apporter au monde, qui est une vie qui est vivante par le Saint-Esprit et par lui-même, dont les principes du royaume de Dieu proviennent du Saint-Esprit et du Saint-Esprit seul. Nous ne pouvons pas évoluer dans le royaume de Dieu si nous n'apprenons pas, mes amis, à connaître ces principes que le Saint-Esprit a consignés dans ce livre qu'est la Bible, si nous n'apprenons pas à interagir avec l'Esprit de Dieu. Nous ne pourrions pas aller de l'avant. Nous ne pourrions pas courir, comme nous l'avons vu le vendredi, puisque nous avons vu que la parole de Dieu nous exhorte, mes amis, à nous débarrasser de tout fardeau et de tout péché qui nous enlace si facilement, dans le but de courir, alléluia, avec persévérance, dans cette carrière, dans cette compétition, ayant nos yeux fixés sur Jésus, qui est l'initiateur, et en même temps, celui qui amène à la perfection notre foi. Gloire au Seigneur. C'est donc le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit seul. Et cette année, frères et sœurs, je voudrais que parmi les objectifs que nous nous sommes fixés, ou que nous sommes en train de nous fixer par rapport à cette nouvelle année, comme nous l'avons vu le vendredi, que l'expérience avec le Saint-Esprit, que la connaissance de la personne du Saint-Esprit soit un objectif majeur pour chacun de nous. Alléluia. Nous ne voulons pas simplement parler du Saint-Esprit, mais nous voulons apprendre à interagir avec lui, à nous laisser conduire par lui, à le laisser nous guider dans la voie du Seigneur. Et c'est de cette manière seulement que nous allons, mes amis, et bien expérimenter la puissance, la vie du royaume, que nous pourrions avoir accès aux ressources intarissables du royaume de Dieu. Alléluia. Ce sont des principes spirituels que nous trouvons dans sa parole et qui sont donc inspirés par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc le royaume de Dieu n'a rien à voir avec tout royaume qu'il y a sur cette terre. Ça n'a rien à voir avec la religion, quelle qu'elle soit, même la religion dite chrétienne. Voyez-vous, car beaucoup de ces religions qui se réclament du Christ sont loin de refléter la sainteté, sont loin de refléter la personne de Jésus-Christ, oui ou non? La plupart, c'est des systèmes politico-religieux, voyez-vous, dans lesquels vous trouvez des gens avec des pouvoirs, et c'est tout. Mais ils ont le nom de Jésus dans la bouche, mais ils n'ont pas Jésus dans leur cœur. Voyez-vous, ils cherchent la gloire des hommes. Ils cherchent ce qui vient, les honneurs des hommes. Et ils utilisent le nom de Jésus. Soyons prudents, mes amis, les temps sont mauvais. Notre âme n'a pas de prix. Voyez-vous, ne la confiez pas à n'importe quel religieux. Hein? Même si c'est votre oncle. En ce jour-là, l'oncle ne sera pas là. Car lui-même aura ses propres comptes à rendre à Dieu. Voyez-vous. Notre âme n'a pas de prix. Le royaume de Dieu. C'est donc une réalité dans laquelle nous sommes entrés. Par Jésus-Christ et par Jésus-Christ seul. Proclamez ce message. Voyez-vous. Car aujourd'hui, il y a toutes sortes de choses qui sont enseignées, qui induisent les gens en erreur. Toutes sortes d'enseignements sont véhiculés et qui égarent les gens, qui séduisent les gens. Ne considérez plus, mes amis, nos contemporains, surtout ici dans notre ville de Kinshasa, comme être des gens connaissant Dieu. Annoncez l'évangile. Ceux qui connaissent Dieu, eh bien, vous diront qu'ils le connaissent et ensemble, vous pourriez louer le Seigneur. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Ne regardez pas au nombre d'églises qu'il y a dans la ville, ni au nombre de groupes de prière qu'il y a, ni au nombre de prédicateurs, au nombre d'apôtres, des évêques, pas du tout. Il y a des évêques qui ont besoin de conversion. Aujourd'hui, c'est plus pour paraître. Vous les voyez avec des habits pompeux, imbus d'eux-mêmes, avec des attitudes hyper religieuses. Mais en réalité, ils se servent eux-mêmes. Et ils deviennent même un problème pour l'Église. Voyez-vous, ils se mettent en valeur. Vous ne pouvez rien faire pour eux. C'est anti-biblique. Voyez-vous, dès lors qu'un homme voudrait se faire passer pour le chef de l'Église, nous devrions le combattre avec la vérité de la parole. Gloire au Seigneur. Il faut que ces religieux comprennent qu'ils ont besoin de Jésus. Alléluia. Et qu'ils le reçoivent. Et qu'en le recevant, ils doivent se comporter avec humilité, demeurer sous l'autorité de Dieu. Et s'ils ont une responsabilité, Mais ils doivent comprendre que la responsabilité dans l'Église, eh bien, est une opportunité de servir les autres. Et tu, évêque, sois serviteur de tout le monde. Ce n'est pas pour que les gens vous fassent des courbettes, ou viennent baiser votre barbe, ou vous caresser la calvitie. Non. Et sont grands dans le royaume de Dieu, ceux qui servent. Et le ministère que le Seigneur nous donne, eh bien, n'est pas une opportunité de nous mettre en valeur. Ce n'est pas une sorte d'ascenseur social ou religieux. Voilà. J'étais choriste, j'étais là derrière le pasteur. Maintenant, je deviens pasteur. Donc, c'est une promotion. Non, c'est un service. Alléluia. C'est même une grande responsabilité. Parce que tu seras amené à prêcher la parole. Et la Bible nous dit que ceux qui prêchent seront jugés sévèrement. Ça devrait donc susciter dans le chef de prédicateur une certaine crainte et tremblement. Quand on voit quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui parle de trembler à chaque fois qu'il doit prendre la parole pour s'adresser à l'Église, eh bien, ceci devrait nous servir d'exemple. Mais quand on voit aujourd'hui, nous, prédicateurs d'aujourd'hui, parler avec beaucoup de suffisance, voyez-vous, nous présentons comme si nous avions la science infuse du ciel. Voilà. Vous voulez encore explication en tout. Il y a des choses que nous ne pourrions jamais comprendre. Voyez. C'est ainsi que j'étais chez mon coiffeur. Il y avait un monsieur qui parlait. À un moment, ça m'a dérangé. J'ai dit au coiffeur, écoutez, si vous continuez comme ça, je ne reviens plus. J'ai dit, cet homme est en train d'insulter les gens. Et c'est là que j'ai appris, c'est une religion qui prône un messie noir. L'église des noirs. Alors les blancs seraient où? Et les jaunes seraient où? J'ai dit, vous laissez. J'ai dit, mais ça c'est du racisme. Pur et simple. C'est de la xénophobie. Voyez-vous? C'est de la ségrégation. C'est une sorte d'apartheid. Et vous laissez ça comme ça? J'ai dit, vous changez de chaîne? Ils ont rigolé, mais on ne rigole pas avec ces choses-là. Et ces gens-là ont de l'audience. Voyez? Puisque s'ils peuvent se permettre de passer sur certaines chaînes de télévision, c'est parce qu'il y a une demande. C'est parce qu'il y a des gens qui trouvent du plaisir. C'est faux et archi-faux. Amen. Il n'y a qu'un seul Christ. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Le descendant de David. Amen. Maintenant, si la couleur de sa peau vous dérange, c'est que vous avez des problèmes. Car ce n'est pas la couleur de l'impôt qui fait l'homme. Qu'il soit noir, qu'il soit blanc, jaune, café au lait comme moi. Mais ça importe. Hein? Comme quelqu'un l'a dit, quelle que soit la couleur de l'impôt, le sang est toujours. Alors regardons la couleur du sang. Puisqu'il est rouge, eh bien, l'humanité est une. Gloire à Dieu. Donc nous devons prêcher ce message. Donc le premier principe très rapidement que nous venons d'examiner ici et qui est un des principes fondamentaux. Et je dirais même c'est un principe autour duquel s'articule toute l'action de Dieu vis-à-vis de l'humanité. C'est le principe de donner. Alléluia. Donner avant de recevoir. C'est si simple. Vous voulez récolter. Vous voulez moissonner. Eh bien, donnez d'abord à la terre la semence. Ouvrez votre main. Donnez à la terre. C'est seulement en retour que la terre te donnera. Et ce, en fonction de ce que tu auras semé. Gloire au Seigneur. Donner, mes amis, est un verbe important dans la parole de Dieu. Et comme je le disais, toute l'action de Dieu s'articule autour de ce verbe. le Créateur des cieux et de la terre, est celui qui nous a donné, qui nous a fait le plus grand don qui soit, qui vaut même plus que le souffle de vie qui nous anime. C'est Jésus, alléluia. Le Seigneur lui-même a dit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Oh, gloire au Seigneur. Il a donné son Fils. Tout ce que Dieu fait pour l'homme, il le fait de manière généreuse et de manière désintéressée. Dieu éprouve du plaisir à donner à l'homme tout ce dont il a besoin pour son épanouissement et pour son bonheur. Et ce principe de donner est un principe fondamental dans la parole de Dieu. Mais lorsque nous parlons de donner, nous ne voyons pas que l'argent, hein, parce que beaucoup tout de suite pensent à l'argent, voyez-vous. Mais c'est un principe qui devrait régir notre vie. Venir ici, prendre, comment participer au culte ici, assister à cette célébration, c'est un don, oui ou non? Vous avez donné votre temps au Seigneur. Car il y en a au moment où nous sommes là, à louer, à adorer le Seigneur, à écouter sa parole, il y en a qui, eux, ont donné leur temps à la bière. Ils sont peut-être derrière, ils nous entendent. Plaise à Dieu qu'ils entendent ça. Il y en a qui ont donné leur temps au sport, au jogging. Ils sont en train de courir, hein. Mais nous avons donné notre temps à qui? Au Seigneur. Mes amis, c'est un principe fondamental. Ne peuvent prospérer dans le royaume de Dieu que ceux qui ont compris ce principe-là. Et toute notre vie devrait être, mes amis, un don pour les autres. Gloire au Seigneur, nous l'avons déjà vu. Voyez? C'est donc un principe important. Mais un principe dont nous avons des difficultés énormes à expérimenter dans notre vie. L'homme a toujours difficile à donner. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que par nature, à cause du déséquilibre que le péché a créé dans l'homme, par nature, nous aimons mieux posséder que partager. Oui ou non? On veut tout avoir. On veut avoir le monopole de la vente de poissons salés. On veut avoir ceci. Voyez? C'est dans la nature de l'homme, hélas, de vouloir posséder plus que partager, de vouloir amasser plus que donner, de vouloir accumuler plus que donner. C'est dans l'homme, mes amis. Voyez-vous? Voyez? C'est dans l'homme. L'homme ne devient pas ou a des difficultés à donner lorsqu'il a beaucoup de moyens. Non. Le problème, c'est là. Alléluia. On a des gens qui n'ont pas grand-chose, mais qui ont des difficultés à donner. Ah oui, parce que quelquefois, on ne regarde qu'à ceux qui ont des moyens. Ah, il a 6 voitures, mais qu'il m'en donne une. Oui. Mais toi aussi, tu as des choses que tu ne donnes jamais à ton voisin. Donc, le problème, ce n'est pas dans la nature de don qu'on fait. Le problème, c'est au niveau du cœur. Alléluia. Et donner devrait être, mes amis, un état d'esprit. Et que cet état d'esprit nous accompagne dans cette nouvelle année. Et aussi dans les années à venir. Que nous soyons de ceux qui éprouvent du plaisir à donner, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Dans Actes 20, l'apôtre Paul cite cette parole en disant, le Seigneur a dit qu'il y a plus de joie, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à la main qui contribue au bonheur d'un cœur. Ce n'est pas une main qui est toujours ouverte et tendue vers le haut, mais plutôt une main ouverte tendue vers le bas. C'est ça qui amène les gens à être véritablement heureux. Les égoïstes, les égocentriques, et ce sont des gens malheureux. Vous avez tous lu l'avare de Molière, hein? Hein? Oui ou non? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. C'est plus qu'un vice. C'est vraiment quelque chose de terrible. Car ce qu'on veut garder pour soi, on finit toujours par le perdre. Mais ce qu'on donne aux autres, eh bien, finit toujours par devenir des récoltes pour nous. De la semence, alléluia. Oui, nous devons savoir que donner est un principe important. Et nous devions vivre de cette manière. Et le don est la clé de la vraie bénédiction. Quand vous donnez du temps au Seigneur pour intercéder
en faveur de votre Église, eh bien, vous êtes en train de semer. Et lorsqu'on sème pour le Seigneur, croyez-moi, on aura semé une prière d'intercession, mais avec Dieu, il vous donnera toutes sortes de moissons. Alléluia. D'autres aussi prieront pour vous. Mais plus que cela, ça pourra être de la moisson matérielle, de la moisson spirituelle, de la moisson financière, de la moisson affective. Gloire au Seigneur. Il n'y a que lui seul qui peut faire cela. Donc, nous devons apprendre à vivre avec ce principe à donner. Rappelez-vous, et je terminerai par ces deux illustrations très, très brièvement. Rappelez-vous de cette expérience de la multiplication de pain. Il y avait un besoin, n'est-ce pas? Les disciples se tournent vers le Seigneur en disant, écoutez, s'il y a moyen de renvoyer ces gens, cette foule qui te suit depuis de nombreuses heures, qui est affamée, qui est très affaiblie, etc., afin qu'ils aillent chercher à manger dans les villages avoisinants. Le Seigneur leur dit, non, pas question qu'ils s'en aillent, donnez-leur à manger, mais Seigneur, nous n'avons rien. Nous avons un peu d'argent dans notre bourse, mais ce n'est pas grand-chose. Mais la Bible nous dit dans Jean qu'il y avait un jeune garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Ce garçon, mes amis, a accepté de perdre pour un temps en donnant tout ce qu'il avait au Seigneur. Et quand le Seigneur a reçu cela, qu'a-t-il fait? Ça a permis à cette foule de manger. Et la Bible nous dit qu'après avoir mangé, eh bien, il y avait encore du pain, il y avait encore de poisson, au point où on a récupéré tout cela, on a rempli combien de paniers? 12 paniers. Et je suis convaincu que le jeune homme a eu à prendre aussi un panier avec lui. Alléluia! Car Dieu est juste, non? Le Seigneur, oui, donnez-lui. Alors vous imaginez un peu la surprise de la maman qui avait préparé ce casse-croûte pour son gamin, pour son fiston qu'elle aimait tant. Il dit, tu suis Jésus, c'est bien mon gamin, va. Comme ça, quand tu auras faim, tu mangeras. Voyez? Et qui voit ce même garçon qui revient avec un panier rempli de poissons, rempli le 5 qu'il a donné, a fini par nourrir toute une foule. Le 2 qu'il a donné a fini par régaler tout le monde, à commencer par lui-même. Mes amis, c'est un principe fondamental. Nous devons apprendre à donner, éprouver du plaisir à donner du temps, à nous donner nous-mêmes, à donner ce que nous avons, même les offrandes. C'est une occasion pour nous de donner. Alléluia. Parce qu'en donnant, nous éprouvons de la joie. Il n'y a pas de secret à la joie. La joie que la scole ou la primousse donne est une joie factice, éphémère, qui dure un temps et qui d'ailleurs amène les gens toutes sortes de bêtises, oui ou non? La joie que le vin ou je ne sais pas quel type d'alcool donne est une joie passagère. Mais la vraie joie qui est là, même lorsqu'on n'a pas grand-chose, est la conséquence d'une obéissance au principe du royaume de Dieu qui consiste donc à donner avant de recevoir. Anne, la femme d'Elkana, qui deviendra plus tard la mère de Samuel. Cette femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a demandé au Seigneur, elle a persévéré dans sa demande. Elle a cru, elle a continué à croire. Finalement, Dieu l'a exaucée, mais elle avait fait un vœu. Seigneur, le jour où tu me visiteras, et que tu rendras mes entrailles fertiles, et que j'aurai un enfant, je te le consacrerai. Dieu a entendu la prière, Dieu a entendu le vœu, Dieu a visité cette femme, il lui a donné un joli petit garçon du nom de Samuel, alléluia. Et elle lui a même donné le nom de Samuel, Shemuel, c'est-à-dire demander à Dieu. Elle avait demandé à Dieu, alléluia. Donc, quand l'enfant est sévré, elle se souvient du vœu qu'elle avait fait, elle prend son enfant. Elle monte à Silo, où se situait le sanctuaire de Dieu à l'époque, avant qu'on construise le temple à Jérusalem. Elle va déposer cet enfant. En d'autres mots, elle donne cet enfant à qui? Au Seigneur. Elle remet l'enfant à Dieu. Tu me l'as donné, eh bien, il est à toi. Elle donne.
Et en retour, mes amis, Dieu l'a visité, lui a donné deux autres garçons.
Alléluia.
Plus que deux garçons, il lui a donné trois filles. Voyez, elle prête un enfant,
elle se retrouve avec combien?
Voilà comment Dieu agit.
Il faut d'abord donner la semence à la terre pour espérer récolter. Il faut d'abord donner avant de recevoir. Alléluia.
Apprenons à donner et prouvons du plaisir à donner. Voyez-vous, n'attendons pas une période de l'année, comme c'est le cas. On attend toujours à Noël. Hein. Il y a des gens qui, tout d'un coup, se découvrent cette vocation de bon samaritain, le bon samaritarisme. Alors, ils vont donner à manger à gauche, à droite, c'est bien. Mais le reste de l'année, on ne le voit pas. Alors, dans ce cas, ce n'est pas sain. C'est-à-dire S-I-N. Dans ce cas, ce n'est pas innocent. Il doit y avoir une idée derrière. Parce que celui qui vit avec ce principe n'attend pas la fin de l'année pour donner un sac à manger à quelqu'un. Voyez, toute sa vie est un don. Alors, puisque Dieu nous a donné le souffle de vie, à notre tour, donnons aussi aux autres. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous te bénissons pour ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à nous inspirer de ce principe. Apprends-nous à vivre ce principe qui consiste d'abord et avant tout à donner avant de pouvoir recevoir. Ce principe est fondamental, Seigneur. Toute ton action dans ton royaume s'articule autour de cette notion de donner. Que nos offrandes que nous donnons, Seigneur, ne soient pas simplement une occasion de faire quoi que ce soit, mais que ça soit là, ô Dieu, une opportunité pour nous de pouvoir mettre en pratique ce principe qui consiste d'abord à donner avant de recevoir. Alors, fais-nous, Seigneur, donne-nous d'expérimenter cette joie, ce bonheur qu'il y a à donner plus qu'à recevoir. Bénis, ô Dieu, ce que nous te donnons maintenant en offrande ou en dîme. Accepte-le de tout notre cœur, car en agissant de cette manière, eh bien, nous nous conformons à un principe de ta parole. Nous donnons non seulement ici, Seigneur, mais donnons également à ceux qui sont dans le besoin. Oh, amène-nous à découvrir la joie qu'il y a donnée, à vivre, Seigneur, dans cet état d'esprit, de pouvoir non seulement être de don pour les autres, mais aussi de pouvoir donner aux autres pour répondre à leurs besoins. Bénis et sanctifie, Seigneur, ce moment, et en particulier, aide-nous à expérimenter, Seigneur, ce principe dans notre vie, alors que nous sommes au début de cette année, et que cela nous accompagne tout au long de cette année. Merci Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.